Bonjour à chacun. Aujourd'hui, nous méditerons un texte de l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 12. Nous sommes le dimanche 14 juin. De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu notre Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, et cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour mutuel que vous vous portez tous augmente de plus en plus. Aussi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Ainsi, la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Il est souvent difficile, quand on se trouve dans un endroit, de comprendre ce que des gens habitant ailleurs peuvent vivre, ce qu'une église située ailleurs peut vivre, et plus globalement de se rendre compte de la situation là-bas. L'apôtre Paul a entretenu de très bons contacts avec de nombreuses églises. Il leur a rendu souvent visite et leur a écrit régulièrement. Je vois dans ce chapitre des Thessaloniciens la part vitale que joue la prière en maintenant ces liens fraternels. En parcourant ces quelques mots de Paul, nous devrions être interpellés par notre vie de prière. La prière est importante, nous le savons, nous le constatons, mais cela fait du bien de le rappeler souvent, car pour beaucoup d'entre nous, la première chose qui disparaît de la vie quotidienne est la prière. Nous pouvons avoir l'impression que nos prières ne font pas de différence dans les circonstances pour lesquelles nous prions, alors notre défi, en pensant comme ceci, et d'être constant dans la prière. Trois points importants sont révélés par la manière dont Paul prie dans les lignes que nous avons lues. Paul est reconnaissant à Dieu au sujet des Thessaloniciens, il est réfléchi dans sa façon de prier, et enfin, il est consciencieux dans ses prières. Si nous ne sommes pas comme cela, ou même si nous le vivons, nous devrions y penser plus fréquemment. Souvent, quand nous partageons nos nouvelles, il s'agit de parler de ce qui se passe, des événements dans nos vies, par exemple. Ce sont des sujets à apporter à Dieu dans la prière. Par exemple, nous prions pour ceux qui vivent des moments difficiles. Et nous sommes satisfaits de pouvoir partager ces moments-là avec d'autres. Par contre, cela m'interpelle que Paul ne prie pas pour ce genre de sujet en particulier dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Car les sujets que nous évoquons ne nous mènent pas vraiment aux prières de reconnaissance. Au contraire, ce sont plutôt des demandes faites à Dieu afin qu'il change notre situation éprouvante actuelle. Voyez-vous, quand Paul arrive chez les Thessaloniciens, il constate leur croissance et il rend grâce à Dieu pour l'évidence de son œuvre parmi eux. Maintenant, ce que je veux dire devient un peu difficile. Je veux parler de notre vision du monde, de ce qui est important pour nous. de ce qui est important pour Paul et de la manière de concilier les deux. Exprimons-nous nos pensées lors de nos prières? Des pensées comme « Que pense Dieu? Quelle est sa volonté dans cette situation ?» Demandons-nous comment notre appartenance au Seigneur Jésus influence notre situation? Et quand nous regardons en arrière, sommes-nous reconnaissants de ce que fait Dieu? Réfléchissons-nous d'une manière qui reflète notre foi chrétienne quand nous formons nos prières? Sommes-nous constants et consciencieux dans notre prière même s'il nous semble que le Seigneur ne répond pas? Ce que nous lisons ici montre que Paul est reconnaissant pour sa vie de prière et dans sa vie de prière sans qu'il s'en vante. Il est réfléchi et constant. Je voudrais traiter le schéma spirituel qu'il utilise pour sa prière. La première chose à remarquer est la reconnaissance de Paul lorsqu'il aperçoit l'évidence de l'œuvre de Dieu dans la vie des Thessaloniciens. Il y a trois domaines où la grâce de Dieu est à l'œuvre dans leur vie. Leur foi grandissait de plus en plus, l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres augmentait aussi, et ils persévéraient dans cette voie malgré la persécution et les souffrances de leur quotidien. Voilà le premier fondement de cette structure de prière paulinienne. Dieu est activement engagé à faire croître la maturité spirituelle de son peuple. Dans le livre de Jacques, nous découvrons que nous devons examiner nos vies à la lumière de la parole. Il faut savoir se rendre compte quelquefois que la croissance spirituelle constatée dans une communauté est en fait quelque chose qui appartient au passé. Plusieurs peuvent devenir satisfaits et en rester là, sans désir réel de continuer cette croissance. Dans notre texte, Paul rend grâce à Dieu pour la croissance spirituelle des Thessaloniciens. Donc, nous pouvons remercier Dieu pour ce qu'il fait, parce qu'il est à l'œuvre quand il réveille les croyants qui hivernent, spirituellement parlant. En étudiant la première épître de Jean, certains pourraient penser que leur amour fraternel n'est pas aussi fort qu'il pourrait être. Cet amour défini par la manière dont Jésus nous aime, nous. Dieu nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas aussi bons que nous l'avons pensé. C'est une expérience assez pénible parce que nous sommes obligés d'être humbles. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Dans n'importe quelle communauté chrétienne, on vit des choses difficiles. Le défi pour tous est de nous épauler pendant ces épreuves et de persévérer dans la prière. Et nous voyons que Dieu est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous à travers toutes ces expériences. Paul est au courant de ce qui se passe à Thessalonique, et il rend grâce à Dieu pour l'évidence de son activité divine. Voilà la base de pensée de Paul, Dieu est capable de susciter son peuple, de le réveiller, de l'attirer vers lui, et ce sont de grands sujets de reconnaissance. La deuxième chose qui est mise en évidence par Paul se trouve au verset 5 à 10 du premier chapitre de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Paul a pleinement saisi ce que Dieu nous révèle dans sa parole, c'est-à-dire que la réalité ultime pour toute l'humanité est l'éternité. Il n'existe pas que ce monde que nous connaissons aujourd'hui. L'éternité est tout à fait réelle, même si elle est invisible à nos yeux. Notre lien avec l'éternité est dépendant de notre relation avec Dieu et de notre obéissance à sa parole. Ce n'est pas que pour l'avenir, mais quelque chose à vivre dès maintenant. Au fur et à mesure que nous obéissons au commandement de Jésus au temps présent, lorsque nous marchons à la lumière de sa parole, nous expérimentons l'éternité. Paul sait que Jésus reviendra, c'est une réalité, et qu'il sera glorifié à travers son peuple saint. Voyons le verset 10. « Lorsqu'il viendra ce jour-là pour être célébré parmi ses saints, et admiré parmi tous ceux qui auront cru. » Ici, dans l'Épître aux Thessaloniciens, cette promesse se situe au futur. Dans d'autres parties de la Bible, cette idée est écrite au temps présent, car l'éternité est en nous maintenant, et la gloire de notre Seigneur est révélée à travers nous. D'un côté, Paul rend grâce de ce que Dieu est à l'œuvre, de l'autre, il rappelle que tout ce que Dieu fait le glorifie maintenant et pour l'éternité. Quand Paul prie pour l'Église de Thessalonique, ses prières sont dirigées par ce qu'il voit de l'œuvre de Dieu. Dieu est actif dans sa grâce et Dieu agira, motivé par un juste jugement. Ainsi, nous arrivons à la prière spécifique de Paul en faveur des Thessaloniciens. Il prie que Dieu les trouve dignes de leur appel, de leur vocation. Autrement dit, que les Thessaloniciens soient à la hauteur de l'acte de grâce que Dieu a opéré dans leur vie. Sa prière est qu'ils deviennent ce que Dieu voulait qu'ils soient par sa grâce. Il prie que la puissance de Dieu les anime, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. Verset 11. Nous avons les deux aspects pour lesquels Paul prie. La ressemblance à Christ, leur relation avec le Seigneur, et le deuxième, que le travail qu'ils font pour le Seigneur soit la manifestation de la puissance et de la présence de Dieu. Un des défis de notre temps dans chaque communauté est de nous assurer que notre activisme ne nous empêche pas de nous baigner dans la présence du Seigneur, de nous réjouir de sa présence. Il y a dans notre Église ceux qui aiment beaucoup servir et agir. Il y a aussi ceux qui aiment être et aiment passer beaucoup de temps dans la contemplation. Et les deux groupes peuvent être assez distincts l'un de l'autre. Cependant, un croyant en bonne santé spirituelle marie les deux aspects dans sa vie chrétienne. Et c'est pour cela que Paul prie, qu'ils soient dignes de leur vocation et qu'ils connaissent la puissance de Dieu dans leur service pour lui. Paul leur dit pourquoi il prie ainsi pour eux. Au verset 12. Ainsi la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélée en vous et la vôtre en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis époustouflé de noter ici que ce n'est pas seulement que Dieu soit glorifié à travers nous, mais que nous soyons aussi glorifiés en lui. Il nous explique comment cela peut se passer, selon la grâce de notre Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà donc ce que Paul prie pour les Thessaloniciens. Le défi pour nous consiste à arriver à comprendre nos situations et nos besoins. Et en examinant ce passage biblique individuellement et collectivement, que pouvons-nous apprendre quant à notre façon de prier et à notre vie de prière? Paul semble dire que ce qui importe le plus dans la vie chrétienne n'est pas que tout devrait bien se passer, ni que les chrétiens devraient être épargnés par les persécutions et les épreuves, mais qu'ils puissent expérimenter une croissance constante de la grâce de Dieu dans leur vie, qu'ils restent fidèles jusqu'à l'éternité, qu'ils vivent d'une manière digne de leur appel divin, et que la puissance de Dieu agisse à travers leur service pour lui, afin qu'ils voient la gloire du Seigneur Jésus-Christ les uns dans les autres. Si nous pouvions prier les uns pour les autres de cette manière, je crois que nous verrions Dieu à l'œuvre en nous encourageant et en nous aidant à prendre ces pas difficiles qu'il nous appelle à prendre. La croissance de notre amour les uns pour les autres. La croissance de notre amour pour le Seigneur, notre service pour lui, afin qu'il soit glorifié. Que les gens autour de nous puissent voir quelque chose de radicalement différent. Qu'ils ne voient pas simplement que nous sommes des gens bien, mais qu'ils voient aussi Jésus. Sans ces prières-là, nous ne survivrons pas et le Seigneur sera mis de côté. Amen.